Dernière chronique environnement pour l'année 2020. On reviendra en 2021, bien entendu, et on va le finir de façon charmante avec Caroline Collin du Cobali, hein, responsable des communications au Cobali. Bonjour, Caroline.
Bonjour, Patrick.
Et pour les gens qui connaissent un peu moins le Cobali, on va vous aider quand même, mais c'est un organisme sans but lucratif qui travaille à la gestion intégrée de l'eau du bassin versant de la rivière du Lièvre et de la rivière Blanche et du ruisseau Pagé. J'ai-tu bien fait ça?
Super.
OK, d'accord. On va parler de changement climatique aujourd'hui.
Oui, ben en fait, je trouvais ça important, hein, parce que samedi dernier, c'était les 5 ans de l'accord de Paris, hein, qui a été signé il y a 5 ans. Donc, où est-ce que, dans le fond, les pays du monde se sont engagés à limiter le réchauffement du climat global à 2 degrés Celsius, puis même idéalement là, à 1,5 degrés.
C'est déjà beaucoup.
Oui. C'est difficile. Puis pourquoi, dans le fond, ça avait été signé, cet accord-là? Bien, tout simplement pour éviter là, tous les impacts des changements climatiques, donc sur le plan environnemental, social et économique, et j'en passe. À cette occasion-là, donc samedi dernier, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a appelé les dirigeants de tous les pays à déclarer l'état d'urgence climatique. Dans le fond, un peu comme ils l'ont fait hein, pour la pandémie de COVID-19, ils ont déclaré l'état d'urgence sanitaire. Donc là, il les appelait à déclarer l'état d'urgence climatique.
Alors, simplement reconnaître que c'est un fait.
Et que c'est un état d'urgence.
Ce qui n'est pas toujours simple pour chacun des pays, hein? On le sait malheureusement.
Malheureusement. Puis, en parallèle à ça, il y a aussi un sondage sur la perception puis l'action des Québécois envers les défis climatiques qui est sorti la semaine dernière. Tu as peut-être entendu parler, le baromètre de l'action climatique.
Okay.
Puis ça, ben, ça nous apprenait dans le fond qu'on est justement une grande partie de la population québécoise à croire qu'il y a effectivement urgence d'agir. Donc, près de 80%, puis presque autant de gens aussi à vouloir en faire plus pour agir pour le climat.
OK.
Sauf que le sondage révèle aussi que nos connaissances générales liées au changement climatique pourraient être meilleures, disons.
Ben, je sais pas. Convaincu de ça.
Alors, mon défi aujourd'hui sera de tenter de démystifier un terme du vocabulaire climatique qui a des liens importants avec l'eau. Et on parle de d'adaptation au changement climatique.
OK, bon, d'accord. On a commencé en parlant de lutte au changement climatique. Là, on est rendu à l'adaptation au changement climatique. C'est quoi la différence entre les deux?
Bien, dans le fond, la lutte, hein, c'est de réduire nos émissions de GES. C'est un terme, dans le fond, qu'on entend souvent qui signifie des gaz à effet de serre. Par exemple, le CO2 qui est émis hein, lorsqu'on roule en voiture puis qu'on brûle de l'essence.
Ça, c'est assez facile à cibler.
Oui, exact. Donc, c'est évidemment important de lutter, mais les experts nous disent aussi qu'on vit déjà les effets des changements climatiques. Alors, il faut aussi s'adapter.
C'est une évidence. On se souviendra du mois de novembre, et c'est pas le seul, là, mais le mois de novembre faisait atrocement chaud.
Effectivement. Donc, quand on parle d'adaptation, c'est-à-dire que ce sont des actions climatiques pour renforcer la capacité des individus et des organisations, donc on parle d'entreprises, de municipalités, à s'ajuster donc aux effets des changements climatiques.
D'accord.
Bref, dans le fond, c'est d'être moins vulnérable, entre autres, par rapport aux inondations.
OK, mais sauf que, bon, évidemment, le changement climatique, il est perceptible, là, mais des inondations, il y en a toujours eu.
Effectivement, c'est pas nouveau. Par contre, les bouleversements climatiques vont venir amplifier le phénomène, puis aussi le déplacer dans le temps.
Oui.
Alors qu'on est habitué, effectivement. Donc, on est habitué d'avoir des inondations de printemps, hein, lorsque la neige, les glaces fondent, tout ça. Mais d'ici 2050, ce qu'on prévoit, c'est que il va y avoir plus de risques d'en avoir au courant de l'hiver, des inondations, puis même en été. Alors, quand on connaît les coûts que ça représente, hein, à titre d'information, en 2019, les inondations ont coûté $1 milliard aux municipalités et au gouvernement. Donc, on comprend que ça devient urgent de mieux se préparer au risque d'inondation, mais aussi de voir comment on peut faire en sorte d'être, comme je le disais tantôt, moins vulnérable, moins affecté. Donc, ça passe par des mesures d'adaptation au changement climatique. Plus précisément, dans le fond, ce qui est prévu là, dans les différents scénarios, c'est d'un côté, il devrait y avoir des périodes sans pluie plus longues, l'été et l'automne. Donc ça signifie moins d'eau dans nos lacs et dans nos rivières. Puis aussi, ça devrait avoir lieu plus souvent que maintenant. Donc ça représente un risque pour l'approvisionnement en eau potable, mais aussi, par exemple, pour l'irrigation en agriculture.
OK.
Alors, d'un autre côté, lorsqu'il va pleuvoir, en fait, ça va être des grandes quantités de pluie et sur une courte durée, on en a connu ça aussi cet été. Hein? Après
ben oui.
des sécheresses, on a eu des pluies torrentielles. Donc, ça, c'est problématique pour la qualité de l'eau de nos cours d'eau et de nos lacs parce que, on va se rappeler, la pluie, quand elle tombe, elle ruisselle sur le sol et elle entraîne avec elle, sur son passage, des sédiments puis des contaminants dans nos cours d'eau.
OK.
En hiver maintenant, parce que l'eau va tomber davantage sous forme de pluie que de neige, on devrait donc avoir au sol moins de neige et durant une plus courte période également. Donc, c'est sûr que si on se place dans la peau de monsieur, madame, tout le monde qui pèle l'hiver, c'est certain que ça peut être intéressant.
Oui.
Par contre, quand on pense, entre autres, à l'industrie touristique liée à la motoneige ou à la pêche sur la glace, on connaît ça pas mal chez nous. Là, disons que c'est loin d'être une bonne nouvelle sur le plan économique, évidemment.
C'est différent.
Alors, aussi, en terminant, les cycles de gel-dégel, donc les redoux plus ouais. fréquents durant l'hiver, mais ça va venir aussi faire grimper la facture au niveau de l'entretien des chemins et des ponceaux.
Oui, ça me semble logique. Comment on fait pour s'adapter à tout ça?
Bien, d'abord, c'est en prenant en compte, justement, notre niveau de vulnérabilité, les risques qui sont associés à ça, pour ensuite, dans le fond, voir les possibilités de réduire cette vulnérabilité-là, parce qu'on peut agir. D'ailleurs, savais-tu que la MRC Antoine Abel planche actuellement sur l'élaboration d'un plan d'adaptation au changement climatique?
Non.
Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens de chez nous, parce qu'il y a plusieurs des mesures d'adaptation qui doivent se faire, dans le fond, à l'échelle des communautés. Donc, par exemple, d'une MRC ou d'une municipalité.
Bien sûr.
Il y a en agriculture aussi qu'on y réfléchit. Tu as sûrement entendu parler ou peut-être même fait une nouvelle à ce niveau-là. Il y a eu dernièrement la tenue du Forum Agri-Climat qui portait sur les impacts justement des changements climatiques puis comment il est possible d'adapter les fermes pour faire face oui. à ces enjeux-là. Puis, entre autres, il y a la gestion de l'eau qui est ressortie comme étant un des principaux défis, dans le fond, que les agriculteurs auxquels ils devaient avoir face,
c'est
peu importe le type
ouais.
de production. Donc, si on en revient plus concrètement à des solutions d'adaptation à l'échelle, par exemple, d'une municipalité, une des façons de faire face aux inondations, c'est de mieux gérer nos eaux de pluie. Alors, pour y arriver, on peut aménager, par exemple, des bassins de rétention qui servent à retenir
oui.
des surplus d'eau. C'est le cas notamment dans le nouveau parc industriel à Mont-Laurier sur le bord de la Lièvre. On en retrouve.
Okay.
Puis aussi l'idée de conserver les milieux naturels, incluant les milieux humides, là, comme les marais et les marécages,
bien
parce
sûr.
Que ça remplit la même fonction naturellement, gratuitement aussi.
On aime ça.
Effectivement. Alors, aussi pour faciliter l'absorption au moins d'une partie de l'eau de pluie dans le sol, on peut aussi réduire les surfaces imperméabilisées, c'est-à-dire on parle de béton, d'asphalte. Donc, réduire ces surfaces-là, puis aménager, par exemple, les grands stationnements de façon différente pour gérer l'eau qui va s'y accumuler.
OK.
En aménagement du territoire, maintenant, il y a un principe qui fait de plus en plus consensus, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à respecter l'espace de liberté des cours d'eau. Par exemple, la bande de chaque côté d'un ruisseau ou d'une rivière qui se trouve systématiquement inondée d'année en année. On va aussi parler parfois de plaines inondables, plutôt donc que de venir empiéter toujours un peu plus en construisant là-dedans des bâtiments, des routes, etc. À titre d'exemple,
ouais.
si on pense à la Lièvre, on sait qu'il y a une partie du secteur de l'île Belle puis de la cour de l'école Jean 23 à Mont-Laurier qui est située justement en zone inondable. Hein. On le sait, d'année en année, ça revient, c'est inondé.
Ouais. OK. Bon, on a parlé notamment de municipalités, des gouvernements, tout ça. Si notre citoyen, notre citoyenne à l'écoute veulent participer, comment ils font?
Bien, en fait, d'avoir premièrement un terrain qui est boisé, végétalisé le plus naturellement possible,
oui.
Ça aide beaucoup, dans le fond, à ce que l'eau puisse pénétrer dans le sol. Donc, moins on aura de surface imperméabilisée chez nous, hein, je rappelle, ça veut dire moins d'asphalte, moins
bien
de gravier
sûr.
Compacté aussi, qui a le même effet, mieux ce sera. Pour mieux gérer l'eau de pluie aussi à notre échelle d'individu, par exemple, l'eau qui tombe sur le toit de notre maison, on peut se procurer une espèce de gros baril là, qu'on appelle baril récupérateur d'eau de pluie qui va permettre justement de récupérer l'eau à la sortie des gouttières. Ou encore, on peut simplement enfouir la fin du tuyau des gouttières dans le sol ou encore diriger le tuyau vers un jardin d'eau de pluie ou vers un milieu boisé. Bref, Tout ça dans l'idée de permettre à l'eau qui tombe de s'infiltrer dans le sol. Puis en terminant, un petit message spécial aux riverains.
D'accord.
Si on habite sur le bord d'un lac ou d'une rivière, d'un ruisseau, c'est sûr qu'une bande riveraine naturelle, encore là, bien végétalisée, d'une bonne largeur, tout ça, bien, va venir jouer un rôle important à cet égard-là.
C'est sûr et certain, et puis c'est charmant aussi. OK, d'accord, il y a des façons qu'on peut contribuer. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez notamment aller sur le site web du Cobalier au cobalier.org ou également peut-être aimer la page Facebook du Cobalier. Nous étions avec Caroline Collin, agente aux communications pour le Cobalier. Merci beaucoup, Caroline.
Merci à toi.